La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Ce soir, en début d'émission, Robert Comeau poursuit son entretien avec Gaétan Dosti, président fondateur de la médiathèque littéraire Gaétan Dosti, située à Montréal. Et en deuxième partie, Jocelyne Delage nous propose le dernier volet de sa rencontre avec Richard Goujon, qui vient de faire paraître chez les éditeurs réunis le livre « L'épicerie sans souci ». Bonne émission, mesdames, messieurs. Pour débuter la soirée, Robert Comeau reçoit Gaétan Dosti, président fondateur de la médiathèque littéraire Gaétan Dosti, qui a reçu le 9 octobre dernier la médaille annuelle de l'Académie des lettres du Québec pour l'ensemble de son œuvre et pour son apport à la société québécoise. Gaétan Dosti est l'auteur d'une anthologie des poètes disparus du Québec et professeur de littérature. Il est aussi membre de la Société historique de Montréal. Pour ce dernier volet de cet entretien, nous ferons une visite des différents salons de la médiathèque littéraire située au 12-14 de la Montagne à Montréal.
Pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, j'aimerais ça qu'on puisse décrire les divers salons là, qui se succèdent, faire le parcours, si je peux dire, où vous avez regroupé des manuscrits, des tableaux, des affiches d'époque particulière. Alors, si on commençait par le début.
Bon, le premier imprimé littéraire, c'est 1830. C'est Bibeau, un journaliste qui n'est pas, lui, très connu. Mais l'imprimeur, par contre, est archi connu. C'est Ludger Duvernay, qui est connu aujourd'hui, entre autres, pour avoir été l'initiateur de ce qui s'appelle la Société Saint-Jean-Baptiste, mais qui était surtout l'imprimeur du journal La Minerve, qui était l'organe du Parti patriote de Papineau.
Mais vous avez des trucs plus anciens, même, encore.
Oui, bien sûr, mais les trucs plus anciens n'ont pas été imprimés ici. Là.
Ah bon?
Je veux dire, par exemple...
Il n'y avait pas d'imprimerie avant le régime britannique.
Bon, c'est connu que sous le régime français, le roi a strictement interdit qu'il puisse s'établir ici une imprimerie. Et sous le régime britannique, les trois premières imprimeries vont être détruites par les Britanniques, en commençant par celui de Fleury-Mesplet, ici à Montréal, en 1678. Alors, entre le premier imprimé, 1830, là, le second imprimé poétique, ça va être 1863. Tu t'imagines, 33 ans de silence dans une littérature. Alors, quand Lord Durham va dire qu'on est un peuple sans histoire et sans littérature, là, c'était hélas un constat. Mais on a tout fait pour qu'il ne puisse pas y avoir même de circulation de la littérature de la mère patrie à l'époque aussi. Alors, il y a comme sorte une volonté d'étouffement de la culture française au Québec et en Amérique du Nord. Et la situation de la bibliothèque nationale continue à accentuer cet étouffement. Comme la littérature, on va la conserver comme dans un entrepôt et qu'on ne va pas la montrer, qu'on va la rendre accessible parcimonieusement à condition que tu veuilles aller voir toi-même tel manuscrit, eh bien, c'est l'image de la littérature québécoise qui devient anémique.
Mais si on continue notre parcours, vous avez quand même un salon complet à l'École littéraire de Montréal. Est-ce que quand j'ai visité, il y en avait un? Ça a été modifié, peut-être?
Bon, je vais commencer. Il y a un salon pour la littérature d'avant 1895. 1895, c'est effectivement le moment où le club des Cécéponges va devenir l'École littéraire de Montréal. Puis l'École littéraire de Montréal, disons-le nous entre nous, c'est un cercle d'émulation, là. Ils pensaient ensemble pouvoir apprendre à écrire. Il n'y avait pas aucune prétention d'apprendre à qui que ce soit à écrire. Il va y avoir des séances publiques en 99, notamment au château de Ramsay, ici dans le Vieux-Montréal, mais il n'y avait pas, c'était pas une école
au sens strict. Ça, c'était Albert Ferland, Bussière, Émile Nelligan.
Et surtout Louis Dantin.
Louis Dantin.
Louis Dantin, qui était le père Eugène Cyr, qui va défroquer, puis un défroqué à cette époque-là, c'était une telle honte, qui va partir pour les États-Unis, mais des États-Unis, à partir des années 20 jusqu'aux années 40, ça va être le grand commentateur, le grand critique de la littérature québécoise. Puis on peut repartir un peu avant. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le travail de Louis Dantin.
Avec
on lui prête d'avoir littéralement créé un poète comme Arthur de Bussière, qui était quelqu'un qui savait pas ni lire et écrire, semble-t-il. Et aussi, Émile Nelligan, on dit que tous les poèmes de Nelligan qui sont dans l'édition de 1903, les poèmes religieux, ce sont des poèmes de Dantin. Lui aurait dû avoir l'imprimature pour pouvoir publier ça, mais en le donnant...
Vous adhérez à ce livre là, qui vient de sortir, bien, la thèse qui vient de sortir?
Bien, non seulement j'adhère, mais je pense que ça va encore un peu plus loin. Par d'autres recoupements, parce que j'ai connu les filles de Louis-Joseph Doucet, les descendants de Louis-Joseph Doucet, mais j'ai connu aussi Marcel Valois, qui avait une chronique au journal La Presse à l'époque, surtout en théâtre, dont c'était un nom de plume. J'ai connu ces gens-là qui m'ont parlé des histoires de cette époque-là. Et les filles de Doucet parlait que Nelligan avait été interné à cause de sa différence sexuelle. Les derniers 6 mois avant son internement, il vivait en réalité chez Arthur de Bussière sur la rue Saint-Laurent. Et Arthur de Bussière aussi avait des côtés gays. Et Mme Francoli, dans sa biographie de Dantin, révèle que Dantin était au moins bisexuel, qu'il avait vers les années 99-1900, dans ces bouts-là, il avait même ouvert une petite boutique sur la rue Saint-Denis, dans les bouts de l'UQAM, et qu'il recevait des jeunes à ce moment-là. Et même Charles Gill était de ce groupe-là. C'était une espèce de...
En fait, ces soirées-là du Château de Ramsay, ça s'est retrouvé dans un livre de poésie qui a été publié par l'École littéraire. C'est le premier livre d'art de poésie québécoise.
Oui, mais même là, avant, toute la fabrication de l'image de l'École littéraire de Montréal, ouais. Louis Dantin va écrire sous 18 ou 19 pseudonymes différents. C'est le véritable Pessoa. Alors, les premiers comptes rendus des choses de l'École littéraire de Montréal, c'est des textes de Dantin sous pseudonyme. Alors, quand il présente toute la gang de l'École littéraire de Montréal, puis quand il va faire sa fameuse préface au poème de Nelligan, même la description dans sa préface de Nelligan, il va dire que Nelligan a les yeux bruns, mais c'est lui qui a les yeux bruns. Nelligan a les yeux bleus. Alors, il y a une sorte de fabulation qui s'est passée à cette époque-là, et une grande partie de la littérature ou du mythe littéraire, c'est Dantin qui l'a créé en suscitant chez des jeunes une espèce d'efflorescence qui va changer notre littérature à tout jamais. Et il y a un parallèle à faire entre Verlaine et Rimbaud. Vous savez que c'est Verlaine qui a tout publié les œuvres de Rimbaud, et on n'a pas vraiment non plus de manuscrits de Rimbaud. Bien, c'est la même chose pour Nelligan. Je veux dire, on n'a pas de vrai manuscrit de Nelligan de l'édition de 1903. Okay. Et c'est quelque part Dantin qui a perfectionné ou qui a finalisé les textes ou les impressions que Nelligan pouvait avoir pour certains textes, mais il y en aurait une proportion significative qui ne serait jamais de lui. Et d'ailleurs, Nelligan, en 1904, quand il reçoit le livre, il affirme à sa mère que c'est pas lui l'auteur de ce livre-là. Il le renie. Et on était très étonnés à l'époque, mais je pense que la gloire aidant avec le preux, et il s'est fini par se familiariser avec certains de ses textes.
Pour le décrire physiquement, je vais laisser la parole à ses contemporains et ses amis, dont le principal fut Louis Dantin. Et c'est à Louis Dantin que revient le mérite d'avoir retrouvé et rassemblé une grande partie de l'œuvre et d'en avoir fait une première publication. Voilà comment il le décrit. « Noble et beau comme un jeune dieu, une tête d'Apollon rêveur et tourmenté, où la pâleur accentuait le trait net, taillé comme au ciseau dans un marbre, des yeux gris et profonds, l'éclat du regard des Celtes, très intelligent, où rutilait l'enthousiasme. Et des cheveux, oh, des cheveux à faire rêver, dressant superbement leurs broussailles d'ébène capricieuses et massives, avec des airs de crinière et d'auréole. Quel stimulant, quel grand exemple que le spectacle de cette figure, promenant un sublime désintéressement parmi tant de fourberies, d'ambitions rampantes, de trahisons, et dans la ville, pleine du bruit des écus remués, ne demandant que la faveur de lever un front libre vers le ciel bleu en accordant sa lyre au chant des oiseaux. Nous tous, ses camarades, nous lui devons l'un plus d'élévation, l'autre plus de tendresse, l'autre plus de musique. Et il avait aussi une façon inexprimable de dire ses vers, de les chanter. Nous le revoyons, la tête haute, le geste large, et nous l'entendons de sa voix chaude dérouler les hémistiches sonores. Quel enthousiasme entraînant! J'ai vu un soir Nelligan en pleine gloire, quand l'œil flambant, le geste élargi par l'effort intime, il clama d'une voix passionnée sa romance du vin. Une émotion vraie étreignit la salle, et les applaudissements prirent la fureur d'une ovation. Ce soir-là, Nelligan connut durant quelques heures l'ivresse de la gloire. Et après que la foule se fut dispersée, ses confrères enthousiastes le portèrent triomphalement sur leurs épaules, jusque chez lui.
Est-ce qu'à la médiathèque, il y a le livre de poésie justement publié par l'École littéraire? Vous dites que c'est le premier livre d'art de la poésie québécoise, en 99, là, d'Albert Ferland.
Est-ce que c'est une œuvre que vous avez? Bien sûr. Et non seulement c'est une œuvre que nous avons, mais nous avons le dessin de Georges Delphos que supposément, si on lit la biographie de Wyszynski de Nelligan, il y a un chapitre qui s'appelle « Le sonnet d'or », il semble que Nelligan aurait demandé à Georges Delphos une illustration pour son poème « Le sonnet d'or » qui venait de porter au monde illustré. Alors, le dessin est arrivé trop tard et c'est Ferland, à ce moment-là, qui va faire un petit poème manuscrit et le dessin va être publié tel quel dans le monde illustré en 98. Et d'ailleurs, là, on a un réel poème plus ou moins de Nelligan, mais qui aurait pu être retravaillé avec Louis Dantin lui-même. D'ailleurs, en 1900, quand on publie les soirées du château de Ramsay, Nelligan est déjà interné. Les poèmes de Nelligan dans les soirées du château de Ramsay, c'est Dantin qui les fournit. Tout comme les poèmes d'Arthur de Bussière. Puis Arthur de Bussière, à partir de 1901, il n'y a plus rien qui est écrit par lui. Il n'y a plus d'œuvres parce que Dantin est pris par d'autres choses.
Est-ce qu'il y a d'autres types d'artefacts dans ce salon de l'École littéraire de Montréal, soit des gravures, peintures?
Oui, beaucoup, des tableaux. Parce que le grand iconographe de l'École littéraire de Montréal, ça a été Albert Ferland. Alors, on a non seulement des dessins de Ferland, mais on a même les plaques d'impression des livres de l'École littéraire de Montréal. Alors, dans la petite atelier d'impression de typographie des jeunes, on réutilise des plaques des années 1900 et qu'on retransforme, qu'on réutilise d'une autre façon. Oui, on a même des héritages comme ça. Et dans cette pièce-là, oui, il y a des tableaux. Vous savez, il y a une parenté continue entre la littérature, la peinture, les autres formes d'art, la musique, l'art graphique, les illustrateurs. Alors, dans chacun des salons, il y a tout le temps des traces de ça.
Et même des sculptures.
Il y a des sculptures, il y a des bronzes. C'est un portrait de société où la littérature est centrale, mais où la littérature est pas tout nue, là.
D'accord.
C'est pas comme un musée. Quand vous allez au Musée des Beaux-Arts, vous êtes devant une œuvre, un tableau, mais vous ne voyez rien de qui l'a fait, de qui est l'auteur.
Les acteurs de l'époque,
les acteurs de l'époque. Ça devient comme un objet
atemporel.
Oui. Tandis que là, c'est plutôt recréé.
C'est incarné dans une période.
Oui. C'est incarné dans la société qui lui donne à naître et aussi de le voir aussi comme un reflet de chacune de ses époques.
Ah, bon, je vous arrête salon, parce qu'on va rester à ce salon. Si on passe au suivant,
le
c'est les années 30.
Le salon suivant, c'est le salon de la modernité, de l'arrivée de la modernité. C'est entre autres Saint-Denis Garneau. On a même une toile de Saint-Denis Garneau parce que Saint-Denis Garneau a fait l'École des beaux-arts puis il a été peintre au début des années 30.
Il a révolutionné la poésie avec Regard et jeux dans l'espace,
oui,
en 37,
mais puis, oui, puis vous allez avoir dans ce salon-là...
J'en arrache parce que c'est là.
J'en arrache... Je n'ai que des livres de lui. Alors, il est plutôt dans le salon de l'École littéraire, parce qu'il était membre de l'École littéraire, Jean Arache.
Oui, il est en 32, donc ça
non, finit. En 22, Jean Arache est membre de l'École littéraire de Montréal. Puis là, il publie sous son vrai nom, Émile Coderre. Parce que Jean Arache, c'est en 32, son premier recueil qui porte ce nom-là, où ce sont des poèmes qui parlent, prennent la langue populaire. Mais Louis Dantin lui-même, à cette époque-là...
Vous revenez toujours à Louis Dantin.
Ah, mais c'est
oui, il a accordé une place vraiment énorme.
Non, oui, c'est le père de la littérature québécoise, Louis Dantin. Je veux dire, c'est l'écrivain le plus important avant la révolution des années 30. Là. Je veux dire, c'est lui qui va même donner des assises à chacun des écrivains en les présentant d'une façon scientifique, d'une façon merveilleuse, et qui va montrer que la littérature québécoise est une littérature aussi forte et aussi grande que les autres littératures, même européennes.
Alors, je voudrais juste comprendre quelque chose sur Jean Arache. Il publie en 32 et vous l'associez encore à l'École de Montréal, l'École littéraire de Montréal. Ça s'étend.
En 22, il devient membre de l'École littéraire de Montréal.
Et il publie une dizaine d'années plus tard son recueil de poésie populaire.
Mais Dantin va écrire aussi en langue populaire, tout comme lui. Mais il va écrire des poèmes pornographique presque. Ode à une belle masseuse.
Là, vous allez être obligé de vous arrêter.
Oui, bien
pour
sûr.
Vous censurer.
Mais,
là,
non,
si
mais,
vous
je, mais c'est que...
Dantin, là. Je mais c'est que... Il y a une fixation
sur
Dantin.
C'est qu'à cette période-là, ouais, on commence à découvrir la langue parlée. Et il y a toujours un décalage entre la langue savante et la langue parlée. Là, et ouais, ça se fait, entre autres, par Dantin et par Jean Arache.
Comment
se
fait son œuvre? Vous dites qu'il a fait une œuvre de poésie populaire. Est-ce que c'était un travail particulier, une œuvre particulière? Ou...
Dans le Coffret de Crusoé, vous avez entre autres un poème sur les chômeurs qui est déjà en langue populaire et qui est absolument bouleversant. Je veux dire, une analyse sur la situation des chômeurs qui a encore plein de pertinence. Alors, à cette époque-là, dans les journaux et les revues, parce que c'est aussi la naissance de la radio francophone au début des années 30, etc. Puis d'ailleurs, Jean Arache va être absolument extraordinaire et célèbre parce que ses textes vont être surtout lus à la radio et ça va devenir un personnage extraordinaire parce qu'il va incarner le petit peuple montréalais et qu'il l'incarne dans sa langue et dans sa façon de parler et de dire. Ça, c'est la grande révolution qui va amener plus tard même le Joual. Bon, ce salon sur la modernité...
Il doit y avoir Alain Grandbois.
Alain Grandbois, c'est plutôt à l'époque du refus global. Parce qu'Alain Grandbois arrive en 1944 véritablement avec son premier recueil qui est illustré par Pellan et qui permet qu'on le connaisse. Parce que le petit recueil dont on connaît que 11 exemplaires qui ont été sauvés du naufrage, son petit recueil publié en Chine en 1932-34 dans ces bouts-là, c'était un mythe de
on
savoir.
On l'a réédité, il y a quelques années.
Oui, on en a fait un facsimile. Mais il est compris dans l'édition qu'il va faire en 1944 de ses poèmes-là. Ces poèmes-là sont aussi dans ce truc-là. Et c'est ce recueil-là, parce que Sandy Garneau, son recueil en 37, Regards et yeux dans l'espace, entre autres Claude-Henri Grignon, qui publiait des chroniques sur le nom de Valdôme, va dire que c'est une écriture dégénérée, tout juste bonne pour la poubelle, si bien que Sandy Garneau, une série, va arrêter la distribution de son livre et ce n'est qu'après sa mort qu'on va retrouver les caisses de livres. Et ce n'est qu'en 1949 que Fidesz va publier pour la première fois un choix de poèmes assez vaste qui va nous permettre de découvrir cet extraordinaire écrivain qui est Sandy Garneau.
C'est pas sa mère qui avait détruit ses manuscrits?
Oui. C'est-à-dire qu'il y a un cousin de Sandy Garneau, dont la mère était la sœur de la mère de Nelly Gant. Sandy Garneau. Quand Sandy Garneau va mourir, bon, sur Sandy Garneau aussi, il s'est mis en marge de la société. Tout cela pour dire qu'il avait une vision. C'était un homosexuel qui ne s'est accepté que vers la fin de sa vie. Et ses parents n'ont pas accepté ça. Alors, à sa mort, ce cousin racontait que tout le contenu de la chambre de Sandy Garneau, les correspondances, le journal, sa mère a brûlé ça.
Donc, il reste,
alors, si bien qu'après 1949, on n'a rien. Il y a eu Georges Cartier qui a fait une biographie sur Sandy Garneau, qui a photographié des tas de documents, et il y a plus du tiers de tous les archives que Cartier avait photographiées qui sont disparues. On dit que la mère de Sandy Garneau, jusqu'à sa mort en 52, a continué à élaguer, à faire le nettoyage pour que son fils apparaisse comme un saint et non pas comme un humain, tout à fait. Alors, c'est un peu méchant à dire, mais c'est arrivé souvent des autodafés comme ça. Il y a l'autodafé de Jean-Aubert Loranger. Sa femme, à sa mort, raconte-t-on, a tout détruit, ses archives, tous ses papiers, tout, parce qu'elle était en furie contre lui. Alors, il y a toutes sortes de trous comme ça dans notre littérature qui s'expliquent par des gestes de censure, devrais-je dire.
Vous avez regroupé aussi dans une autre, je ne sais pas si c'est encore ensemble, les œuvres des femmes qui ont renouvelé l'écriture féminine. Je pense à Jovette Bernier, Eva Sonnecal, Simone Routier. Est-ce que vous avez des œuvres de ces...
Nous avons des œuvres, nous avons les œuvres de ces écrivaines-là, et assez souvent dans des tirages de tête, des exemplaires exceptionnels, parce que j'ai eu l'occasion d'acheter notamment la bibliothèque d'Albert Ferland. Et notamment aussi la bibliothèque d'Édouard Montpetit, la bibliothèque québécoise de ces deux écrivains-là. Alors, il y a dans ça des choses absolument exceptionnelles. J'ai des autographes de toutes ces femmes-là. Mais je dirais que si elles naissent, la littérature féminine naît dans les années 30, c'est un peu après la guerre, la dernière guerre, que Gabrielle Leroy, qui a véritablement, les femmes vont être devenues des écrivains à part entière. Vous savez, dans les maisons d'édition des années 50, l'Hexagone, ou bien encore des années 60, Parti pris, il n'y a aucune femme. Hein? Je veux dire, il faut attendre presque la barre du jour avec Nicole Brossard, puis le début des années 70 avec les éditions des femmes, etc., où véritablement les femmes vont prendre une place puis vont l'occuper. Aujourd'hui, on pourrait dire que la littérature féminine est devenue presque majoritaire dans certains genres. Puis on sait aujourd'hui que le lectorat féminin est autour de 70 % du lectorat. Et probablement que dans les prochaines 100 ans, la littérature sera une littérature de femmes, autant que dans les derniers 100 ans, ça a été une littérature d'hommes. On est rendu là. Mais...
Il y a des exceptions. Anne Hébert, par exemple, c'est avant les années... C'est très
tôt. Oui, mais Anne Hébert, en 42... C'est un recueil de poésie où il y a des poèmes remarquables, mais aussi il y a une telle bondieuserie que de son vivant, elle n'a jamais voulu que ce soit réédité. Ah oui. Mais la grande poète des années 40, c'est Isabelle Legris, avec notamment Ma vie tragique, où elle va écrire des poèmes d'une telle sensualité que sa propre famille va presque faire disparaître cette œuvre-là. Et ce n'est qu'à cause de Georges Cartier de la Bibliothèque nationale, une trentaine d'années après, qu'on va redécouvrir son œuvre. Mais avec les années 50, là, pour la première fois, il y a vraiment un vrai contingent de femmes qui va se mettre à écrire. Et dans les années 60, ils forment déjà un groupe qui va être autour de 40 % de la littérature qui va se faire, va devenir une littérature de femmes, alors que depuis 80, c'est les hommes qui déclinent comme quantité.
Est-ce que vous diriez que le premier numéro de la revue Liberté en 59 marque un tournant dans la littérature?
Oui, sûrement. Je veux dire, c'est aussi... Imaginez que la revue Liberté est une revue qui existe encore. Alors, c'est une des revues qui va accompagner la révolution littéraire et culturelle du Québec et qui va l'analyser sur toutes sortes d'angles et de coutures et qui va susciter autour d'elle d'autres revues, en particulier à partir de 63, la revue Parti pris, qui, elle, va se consacrer systématiquement à regarder de près toute la société québécoise sur toutes ses coutures, que ce soit littéraire, sociologique, politique, même la condition des femmes. C'est là que va paraître les premiers écrits où on va parler de la situation de la femme au Québec.
Dans les années 50, il y a beaucoup de poètes qui ont en même temps des maisons d'édition. Je pense à, évidemment, Roland Giguère, Gilbert Langevin aux éditions Attis. Il y a eu, dans les années 50...
Et surtout Miron à l'Hexagone.
Miron à l'Hexagone, bien sûr. Alors, c'était propre aux années 50, ça, cette espèce d'effervescence de petites maisons d'édition de poésie.
Mais c'est pire que ça. C'est, pire. Que, c'est pire que ça, dans le sens que avant que naissent ces maisons d'édition-là, là, c'était un grand désert littéraire. Là. Je veux dire, dans les années 30, là, les maisons d'édition sont des maisons d'édition rarissimes, pauvres. Les cahiers de la file indienne font des livres merveilleux, mais ils vont en faire juste 3. Le quatrième, c'est un livre de Ferron qui est moins intéressant. Il y a comme un besoin de se publier, et à ce moment-là, c'est toutes des jeunes qui vont prendre des initiatives.
Comme Gatien Lapointe, par exemple, aux Écrits des Forges. Hein?
Mais ça, Gatien Lapointe aux Écrits des Forges, c'est après la Nuit de la Poésie de 70. La Nuit de la Poésie de 70 a été comme une espèce de réveil, et ça va donner naissance à toutes sortes de maisons d'édition, notamment les Écrits des Forges, les éditions du Norrois. Il venait d'y avoir les Herbes Rouges, qui était une revue qui va se transformer en maison d'édition aussi. Puis là, va naître...
Donc, un mouvement qui commence vers les années 50 et qui se poursuit dans les années 70.
Dans les années 50, tu as les premiers balbutiements. Je veux dire, l'Hexagone naît en 53, mais elle va prendre son air d'aller qu'avec les années 56-57. Mais c'est avec les années 60 que là, tout à coup, la littérature québécoise va devenir une littérature globale, là, où tous les genres littéraires vont arriver et vont avoir une consistance. Vous savez, par exemple, le théâtre québécois, là, c'est très tard qu'ils arrivent. C'est à partir de 1935 que des gens comme Gratien Légilina ou encore le Père Legault avec les Compagnons de Saint-Laurent font un vrai théâtre québécois. Alors, il y a comme une jeunesse de cette littérature-là qu'on n'imagine pas à ces années-là. On s'imagine qu'on a un passé littéraire, mais ce passé littéraire, on ne le connaît pas. Quand, en 68, on va publier pour la première fois une histoire et anthologie de la littérature française du Québec, dans le premier tome, on va dire qu'il n'existe pas de tradition de lecture de notre littérature. Bon, cette tradition de lecture, elle s'est établie. Mais cette tradition de lecture, elle s'établit uniquement autour des textes. C'est comme si les textes étaient des textes tout nus qui
n'avaient
pas de vie littéraire, qui n'avaient pas de graphiste, qui n'avaient pas d'illustrateur, et qui étaient pas nécessairement hors contexte, parce que souvent, pour présenter ces textes-là, mais on a présenté les textes tout nus. Là. Je veux dire, on va présenter les anciens Canadiens, mais juste le texte. On ne verra pas l'illustration qu'il y avait au début, on ne verra pas le graphisme, on ne verra rien. On va avoir le portrait de Philippe Aubert de Gaspé, parce qu'il est archi-connu, mais c'est tout.
Si on vient à notre parcours, on était donc dans un premier salon, là. Les autres salons, ça...
Bon, il y a le salon autour du Refus global.
Oui.
Il y a un vrai exemplaire du Refus global qui est là, étalé, parce que le Refus global, c'est imprimé sur du papier vert, c'est imprimé en rouge, c'est illustré...
Illustré par Iopel, hein?
Entre autres, par Iopel, avec des textes de Gauvreau pour la couverture, mais c'est illustré aussi avec des peintures de chacun des peintres du Refus global. Puis il y a même des textes sur la danse de François Sullivan, parce que François Sullivan n'était pas encore artiste peintre à ce moment-là. Oui, mais il y a autour, il y a même le poème affiche que Claude Gauvreau a fait pour sa pièce de théâtre Bien-être en 1947, une pièce de théâtre qui se retrouve dans le Refus global.
Donc il y a un salon.
Il y a un salon autour de
48,
ça,
là, autour de
puis ces... autour de la naissance aussi des éditions Herta de Roland Giguère. Parce que Roland Giguère, c'est l'extraordinaire artiste qui va complètement transformer l'édition littéraire en tant que telle. Il y a avant Roland Giguère, puis il y a après Roland Giguère.
J'avais d'ailleurs l'intention, je pense, de faire une exposition sur ces...
Cette année, c'est une exposition sur les années 60-70, de la Révolution tranquille à la Révolution pas très tranquille. Puis il y a même des salons qui sont consacrés aux écrits révolutionnaires de 63-70, où vous voyez un panorama de toute l'effervescence de ces années-là. Mais l'année prochaine, dans ce deuxième étage, ce sera une exposition qui va être consacrée effectivement à l'édition typographique issue de Roland Giguère et de l'Atelier des arts graphiques des années 40, comparée à la nouvelle édition typographique qui naît, entre autres, aux ateliers de La Passe, cette librairie-atelier qui est au sous-sol de la
Donc, si je comprends bien, l'exposition actuelle qui a commencé au mois de septembre va se poursuivre jusqu'au mois de juin.
Oui.
Et ça, c'est sur les écrits révolutionnaires des années 60-70.
Non, 70. C'est toutes les années 60.
Les années 60.
C'est les années 60. Ça part des insolences du frère Untel, puis on peut dire que ça peut aller jusqu'au manifeste de FLQ si l'on veut, mais ça couvre tous les genres littéraires. Là. Le théâtre, les essais, la poésie, le roman, il n'y a pas... Dans mon esprit, ça pourrait être une maison de la littérature aussi, c'est tout l'ensemble de la littérature, parce que la littérature apparaît dans toutes ses ramifications. Là, à l'état.
Donc, il y a un salon particulier. Après le refus global, le salon suivant, c'est sur ces années 60?
Bon, c'est tout le deuxième étage des années 60. Avec,
ça, c'est réaménagé, parce que c'était pas comme ça au début. Là.
C'était pas... Mais c'est que...
Moi, j'ai visité ça et c'était pas aussi développé.
Mais c'est que chaque année, le deuxième étage est complètement changé.
Ah bon.
Je veux dire, et renouvelé. Bon, on a maintenant même un salon pour l'écriture féminine. Mais dans le grand salon, pour la première fois, il y a un mur complet consacré à l'écriture des femmes. C'est la première fois qu'il y a un contingent suffisamment important de femmes écrivaines qui font, je dirais pas ombrage à l'écriture des hommes, mais qui les accotent. Là. C'est à cette époque-là qu'apparaît les Marie-Claire Blais, même Michel Lalonde. Bon, il y a celle qui était là avant, Gabrielle Leroy ou autre, mais la Nicole Brossard arrive là, même Clémence Desrochers, et ainsi de suite. Alors, il y a une présence de ça parce que c'est le moment où elles apparaissent vraiment, où elles vont prendre leur place et petit à petit même prendre un certain contrôle du développement de la littérature, comme on le voit aujourd'hui.
Vous avez beaucoup d'artefacts aussi sur, évidemment, les éditions Parti pris, le mouvement Parti pris, là, la revue, c'est 63-68. Donc, ça se retrouve dans ce deuxième étage. Où...
Oui, mais je dirais que... Par toutes sortes de circonstances, j'ai hérité de toutes sortes d'archives sur cette période-là.
Des manuscrits, j'imagine?
J'ai hérité notamment les archives de Pierre Vallière. Il y a là le manuscrit de Nègre Blanc d'Amérique, mais il y a aussi le manuscrit de l'exécution de Pierre Laporte, avec tous les artefacts de recherche autour de ça. Mais j'ai aussi les archives de Miron sur cette période-là, j'ai les archives de Gérald Godin sur cette période-là, puis j'ai hérité d'une partie des archives du mouvement de défense des prisonniers politiques, le MDPPQ de l'époque. Alors, l'accès à toute une espèce de portrait de la société, de l'effervescence des années 60.
C'est très politique, c'est possible. Ça. C'est des manuscrits littéraires, mais aussi très...
Ben, cette partie-là, oui, bien sûr. Mais je veux dire, de la façon dont c'est écrit, ça a aussi un côté littéraire, là. Je veux dire, mais effectivement, vous avez tous les reflets de ça, mais... Même si c'est très politique, là, ce politique-là influe dans la littérature. Speak White de Michel Lalonde, il n'est pas né de rien. Là. Il est né dans une effervescence et ça répondait à ce qui se passait. C'était le FLQ, c'était tout ça. C'était... Alors, oui...
Vous avez parfaitement raison, parce que de plus en plus, on essaie de réduire la Révolution tranquille à simplement un ensemble de réformes libérales qui serait commun à tous les pays occidentaux et toute la dimension spécifique, c'est-à-dire l'effervescence indépendantiste et nationale et nationaliste, si je peux dire, est souvent écartée. On essaie de normaliser un peu l'histoire du Québec en montrant que c'est commun
écoutez,
à tous les pays.
Ce qu'on fait avec la littérature, de présenter juste des textes, c'est la même chose. C'est délaver une culture, c'est délaver une littérature. Je veux dire, je me demande s'il n'y a pas un intérêt politique à contrôler les imprimés et à empêcher qu'ils puissent circuler.
Bien sûr, vous devriez faire une exposition sur la censure.
Mais oui, l'exposition sur la censure, elle est en préparation.
Ah oui?
Avec Pierre Hébert, qui a publié deux tomes sur l'histoire de la censure littéraire. Après, mes projets d'exposition sont là. Après l'exposition sur Roland Giguère et la nouvelle édition typographique, c'est une exposition sur la censure littéraire. Et on espère faire circuler l'exposition. Et la censure, vous savez, ça commence dès le premier imprimé littéraire en 1830. Dans le recueil, il y a un poème qui commence par un péché mortel. Alors, dans les bibliothèques publiques, on faisait pas un amendement à l'époque, on déchirait la page. Alors, ça va me prendre, moi, une quinzaine d'années avant d'en trouver un complet.
Alors, j'imagine que vous attirez beaucoup de gens, surtout des jeunes, que vous avez été intéressés par l'exposition actuelle.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'on attire surtout des jeunes. À cause de l'arrivée massive d'un certain nombre de jeunes universitaires qui ont tous en bas de 30 ans, il y a comme une nouvelle... Par exemple, la section sur les écrits révolutionnaires, là, c'est préparé par un groupe qui s'est donné le nom, le groupe Anarchive, et qui font un inventaire de toute l'effervescence de gauche et littéraire, l'interconnexion de tout la culture à cette époque-là. Parce que ça serait fait aussi dans la chanson. Hein. Vous avez des chansons de Charlebois, Québec Love, où il va parler « ça pète, respecte pas », puis « si ça marche pas, donne-moi un gun », tu sais. Alors, il y a cette interconnexion à la fois avec l'effervescence politique, avec les textes littéraires qui accompagnent cette période-là. Puis il y a des textes de Michel Garneau absolument extraordinaires qu'on ne connaît pas et qu'il n'a pas publié ailleurs et qu'on peut voir et lire là. Alors,
Mais les Archives nationales du Québec doivent convoiter tout ça, doivent... Vous ne pensez pas? Ils vont vous laisser...
Écoutez, les Archives nationales sont venues faire un tour. Ils m'ont dit, Monsieur Dosti, on va tout prendre vos affaires, on va vider vos cartes, puis on va vous laisser les cartes. Puis, on va vous donner des reçus d'impôts. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le gouvernement du Québec ne paie plus les archives. Là. On émet des reçus d'impôts. Mais vous savez, moi...
Avec vos revenus,
j'ai pas assez de revenus pour que des reçus d'impôts n'aient quelque importance que ce soit. Alors, quelque part... Puis, en plus, quand on nous remet des reçus d'impôts, ils sont pas transférables au conjoint et à la conjointe. Alors, pour moi, toutes ces affaires-là ne valent absolument rien. Ça vaut rien, là. Je veux dire...
Vous travaillez à consolider la médiathèque littéraire.
Oui, je veux le transmettre aux générations suivantes. Et c'est à travers ce groupe de jeunes qui sont en train de prendre en main petit à petit un certain nombre de choses que je pense que ça peut se faire.
Écoutez, M. Dosti, je vous le souhaite. Et puis surtout, je voudrais inviter tous nos auditeurs, nos auditrices qui s'intéressent à la littérature québécoise à visiter la médiathèque littéraire Gaétan Dosti, qui est située, pour encore un bon bout de temps, au 12-14 rue de la Montagne, un peu au sud de la rue Sainte-Catherine. Alors, merci beaucoup, ça a été fascinant.
Eh bien, moi, je te remercie aussi pour cet entretien qui fut généreux et merveilleux à la fois. Puis je remercie la Société historique de Montréal de faire ce genre d'émission qui reste, je pense, en ligne en plus,
oui,
qu'on peut écouter par après. Et je trouve aussi que le travail qui se fait à la Société historique, parce que la Société historique est vieille dans le temps, est un...
1858!
Que c'est un des facteurs qui fait que la culture et la culture historique restent vivantes à Montréal. Parce que, comme on le voit, ça n'a pas l'air d'être la BN qui le fait.
Merci beaucoup, Gaétan.
Ah, comme là! Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai tous les étangs. Oh,
venez d'entendre le dernier chapitre de l'entretien que nous accordait Gaétan Dosti, président fondateur de la médiathèque littéraire Gaétan Dosti, située au 1214 rue de la Montagne à Montréal. Monique Lérac interprétait « Comme la neige a neigé », un poème de Nelly Gant, et elle a lu, plus tôt dans l'émission, un texte de Louis Dantin sur Nelly Gant. Vous écoutez « Nouveaux regards sur notre histoire » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. En deuxième partie de l'émission, Jocelyne Delage s'entretient avec Richard Goujon, qui vient de faire paraître chez les éditeurs réunis le livre « L'épicerie sans souci ». L'auteur nous parle de la famille nombreuse de Théodore Sans Souci qui s'entasse au début des années 30 dans un logement au-dessus de son épicerie-boucherie dans le quartier ouvrier de Maisonneuve avec les sœurs de sa femme, Émilienne, toutes trois installées chez elle. Richard Goujon est né à Granby le 4 août 1947. Après une carrière de 35 ans dans l'enseignement, Richard Goujon se consacre depuis l'automne 2008 à l'écriture. Il est l'auteur de nombreuses publications dont le roman de Laura Socor, La naissance d'une héroïne, publié en 2010, le roman de Laura Socor à la défense du pays, publié en 2011, Les femmes de Maisonneuve, volume 1, Jeanne Mance, 2012, et Les femmes de Maisonneuve, volume 2, Marguerite Bourgeois.
Alors bonjour Richard Goujon, on est bien content de vous revoir, cette fois-ci pour un nouveau livre, ce qui est une habitude. Et ce livre s'appelle « L'épicerie sans souci ». C'est le premier de trois tomes.
Oui.
Et c'est fort intéressant. Maintenant, ma première question. Sur la page couverture de votre livre...
Oui.
On voit une annonce de Vio. Il y avait la biscuiterie Vio dans ce quartier-là.
Il y avait la biscuiterie Vio dans ce quartier-là. Et ça aussi, ça m'a fasciné. Mais quand on parle de biscuiterie Vio, c'est exact, mais c'était pas seulement une biscuiterie, c'était aussi une confiserie. On faisait des bonbons.
Est-ce qu'ils faisaient du pain aussi?
On produisait le pain, les biscuits, la confiserie. Et c'était même distribué à travers le Québec, en tout cas, peut-être pas dans les moindres recoins, mais à un certain moment, l'entreprise accaparait entre 10 et 20 % de la production du pain, des biscuits, de la confiserie au Québec. Alors, c'est pas rien.
Oui.
D'ailleurs, à la biscuiterie Vio, qui étaient les concepteurs du biscuit...
Whippet. Notre fameux Whippet.
Et je sais que, bon, en 1913, on n'est plus en 1935, mais en 1913, on employait 350 employés à la biscuiterie Vio.
Oui.
Et dans le deuxième tome, on verra éventuellement, il y a un de mes personnages qui travaille à la biscuiterie Vio. Et elle est sauceuse dans le chocolat.
Ah, oui, oui.
oui.
C'est un beau métier,
oui,
ça.
Oui, c'était tout à fait exact aussi, là, parce que, bon, ce métier-là a réellement existé, bien sûr. Là.
Oui, c'est sûr.
Oui, oui.
J'ai remarqué partout dans le livre tous les noms des compagnies anglaises.
Oui.
St. Lawrence Sugar.
Oui, qui est devenue l'antique aujourd'hui. Là.
Ah oui?
Oui, okay. oui.
Puis des compagnies de coton, puis tous des noms anglais.
Alors... Oui, ça aussi, ça a changé. Canadian School Cotton, ce n'est plus ce que c'était, là, évidemment, mais ça s'appelait comme ça à l'époque.
OK.
Effectivement.
Vous parlez de hachis parmentiers.
Oui,
ben, je ne savais pas qu'à l'époque, on appelait
ça. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est pour expliquer que c'était ce qu'on appelait du pâté chinois, tout simplement.
Oui, oui.
Oui. D'ailleurs, en parlant de pâté chinois, il y avait à Montréal beaucoup de buanderies qui étaient tenues par des Chinois.
Oui.
Et même sur la rue Adam, il y avait un buandier qui s'appelait Li Sing. Et il y avait quelques buanderies Li Sing, là. Puis j'en ai profité pour faire allusion à ça. Et encore une fois, dans le deuxième tome, il est question de cette buanderie parce que je voulais mettre en scène le chinois et tout ça. Et on ne peut pas tout raconter dans un tome.
Non,
là,
non,
alors,
c'est sûr. Mais les gens disaient, on va envoyer ça
chez le chinois.
Ça existait un peu partout, là, à travers
la ville. Oui.
Vous parlez du secours direct.
Oui.
Qu'est-ce que ça donnait exactement, le secours direct, à cette époque-là? Je suppose que c'est un peu comme le bien-être social.
Bien, on n'osait pas appeler ça le bien-être social, mais c'était une forme d'aide des gouvernements pour soutenir les gens qui étaient dans la misère ou les chômeurs. Bon, alors ça a existé, effectivement.
Là, vous avez parlé aussi d'émissions qu'on regardait, le curé de village.
Oui.
Et je voulais juste vous dire que c'est mon père qui était le curé de village.
Ah!
Il avait 20 ans, puis c'est lui qui jouait le rôle du curé de village.
Ah,
c'est drôle, hein?
Intéressant.
Ouais.
Monsieur Gérard Delage.
Oui, oui.
Bon, content
Mais,
de l'apprendre.
C'est Robert Choquette qui écrivait ça.
OK, c'est une émission qui est extrêmement écoutée
oui,
à la radio.
Oui, oui, oui. C'est oui, drôle.
Oui.
Bon.
Oui.
Ensuite, à la page 40, vous dites que le bon monsieur, sans souci, bourrait sa bouffarde. C'est la première fois que je vois ça.
Ça à sa pipe.
Ça s'appelait une bouffarde?
Bien, il y en a qui appelaient ça de même. Alors,
oui,
c'était une expression d'époque.
Que j'avais jamais vu ça, alors ça m'a
oui.
surpris.
Oui.
Vous parlez du red light. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du red light? Parce que les gens ont vaguement entendu ce nom-là, mais je ne suis pas sûr qu'ils savent de quoi il s'agit.
Bien, le red light, c'était le quartier Saint-Laurent à l'époque, là. Sur la rue Saint-Laurent, donc, où il y avait des cabarets, des commerces illicites, la prostitution, et ça a commencé comme au milieu du 19e siècle, mais surtout entre 1925 et le début des années 60. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait ça « red light » Ça faisait référence aux lanternes rouges en France qu'on accrochait aux maisons portes des maisons closes.
Ah oui?
Alors voilà, le nom « red light » fait référence à ça. Alors, c'est un commerce, il y avait beaucoup de commerces de jeux, débits de boissons illégaux, proxénétisme, et ça mettait en vedette, d'ailleurs, plusieurs artistes étrangers qui venaient des États-Unis en particulier. Mmh. Alors, ça a été fort populaire. Donc, je pouvais pas, surtout en référence à un de mes personnages qui s'appelle Léandre, je pouvais pas négliger, balayer sous le tapis ce coin, ce quartier là, de Montréal. Mais enfin, lui, mon Léandre, a ses activités plutôt dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Ah oui?
Oui.
En tout
oui.
cas, c'était fort intéressant de voir l'interaction de Théodore Sans Souci, qui
oui.
était le propriétaire, avec sa femme Émilienne, puis
oui.
tous les enfants. C'est vraiment assez amusant de voir comment tout se passait à l'époque.
Et il y a également, si vous me permettez, Jocelyne, il y a également les trois tantes qui habitaient également dans la maison de ma famille Sans Souci, en fait, là. Et ça fait référence un peu à ma famille, parce que ça s'est passé un peu comme ça. Il y avait des vieilles tantes célibataires, dont deux des trois qui habitaient là, qui étaient propriétaires d'un magasin de coupons sur la rue Adam, encore une fois. Et je trouvais ça intéressant de mettre cette petite boutique de coupons et de tissus en scène dans mon histoire et les personnages qui fréquentaient aussi à certains moments ce magasin-là.
Là, quand on parle de coupons, on parle de tissus.
Tissus.
OK, parce qu'il y a eu les Time Gold Star, puis toutes sortes de coupons d'affaires.
Ah oui,
d'affaires,
oui, les tissus, les bouts de ligne, comme
oui.
on appelait à l'époque.
Ah,
là,
oui.
Oui, oui.
Okay.
Oui, oui, c'est ça, là, les restants de grands morceaux, là, si on peut
okay.
dire. Alors là, ça devenait ce qu'on appelait des coupons, puis il y a des couturières qui se débrouillaient avec ça, et voilà.
La Patrie, c'était le journal le plus lu à l'époque?
Bien, écoutez, La Patrie, c'était un journal, d'abord, il faut dire qu'il était quotidien. Et comme on l'a mentionné tantôt, à certains moments, pas toujours, mais il y avait deux publications
par
dans
jour.
La journée,
ouais.
l'édition du midi, l'édition du soir. Mais c'est devenu, avec le temps, un hebdomadaire. Et ce journal-là a été, je dirais, au cœur de la vie des Montréalais, puisque ça a duré, ça a paru pendant 100 ans, de 1879 à 1978. Alors, ça a été créé par, fondé par Honoré Beaugrand, qui est un personnage de notre histoire.
Métro.
Oui, qui était extrêmement...
Qui rappelle son souvenir.
Tout à fait. Donc, ce qu'on pouvait retrouver dans ce journal-là, c'était l'actualité politique, les faits divers. Il y avait des pages sur le sport, des pages financières. Il y avait des annonces de toutes sortes, des bandes dessinées également. Ce qui m'a intéressé beaucoup à la lecture de ce journal, ce sont des annonces de produits qu'on pouvait retrouver en épicerie. Alors, j'étais étonné de savoir que, par exemple, les shredded wheat existaient à l'époque.
Ah oui?
Oui. On voit des annonces de Shredded Wheat. On voit des annonces de la compagnie...
Avait-il le cornflakes?
Oui, il y avait le cornflakes également.
Ah oui.
Il y avait Gigi Joubert qui existait, le thé salada...
Oui, ça, je le sais.
Le cornstarch
oui.
Benson.
Oui.
Des annonces des magasins Eaton, Dupuis Frères, Simpson, les cigarettes de Sweet Caporal, les annonces de cinéma, de whisky, du papier à cigarettes Vogue. Le samedi, par exemple, il y avait la bande dessinée Yvan le Terrible particulier.
C'est vrai.
Et donc, je trouvais que ça permettait d'être très actuel, d'être très contemporain, parce que je savais que, bon, par exemple, disons que le Coke se vendait à un certain moment à 6 bouteilles, petites bouteilles, pour 26 sous, que le beurre se vendait à 25 sous à peu près, que la pinte de lait était à 10 cents, qu'à un certain moment donné, on parlait d'augmentation du prix du lait, qu'une laveuse à linge pouvait être vendue à 64,50 $ en spécial, mais que ça existait déjà pour les gens qui avaient l'eau courante, l'eau chaude, disons, dans leur maison. Alors, tout ça m'a permis donc d'actualiser ce qu'il y avait comme produit, comme denrée, comme produit de consommation à l'époque. Oui. Et je trouvais ça fort intéressant, et de suivre la politique aussi, parce que, bon, il était question, par exemple, beaucoup dans la patrie du frère André, qui en 1935 avait 90 ans. Quel était son état de santé? On en parlait de temps en temps. Il recevait encore des visiteurs, beaucoup.
À l'oratoire.
Bien, c'est sûr qu'il a été malade. À un moment donné, il recevait moins, mais il était encore actif. Oui. Et même en 1936, il est allé, là, je devance un petit peu, mais il est allé faire un tour à Québec pour voir M. Duplessis, qui venait d'être élu pas longtemps. Il avait été élu le 17 août 1936. Alors donc, les actualités de Montréal, de la province de Québec, s'étaient relatées dans le journal, et je trouvais ça fort pertinent d'aller me documenter auprès de journaux de la patrie, qu'on peut consulter d'ailleurs
sur le
site, mais peut-être aussi, mais ce que j'ai fait, moi, je suis allé sur le site de la Grande Bibliothèque de Montréal, et si vous allez dans la collection, dans la rubrique « Collection numérique », là, vous allez voir un listing, si vous me permettez l'expression, de tout, un grand nombre de journaux qui ont été numérisés, dont La Patrie, dont Le Petit Journal.
Oui.
Je sais que pour ce qui est de la presse, ça n'a pas été numérisé complètement, là, mais enfin, disons que j'ai consulté beaucoup La Patrie et Le Petit Journal. Je trouvais ça fort intéressant, fort enrichissant. En plus de me documenter auprès de personnes âgées, notamment, j'ai un vieil oncle de 96 ans et son épouse de 95 ans, que j'ai consulté, qu'on me rapporte des anecdotes, des souvenirs, enfin, qu'ils avaient. Donc, en plus de cette documentation très riche auprès de journaux d'époque, là, et de certains livres d'histoire également.
Oui. Puis Le Petit Journal, vous parlez de l'autre journal.
Oui.
Lui, est-ce qu'il était aussi populaire? Tantôt, vous avez dit qu'il était seulement une fois par semaine.
Oui, c'était un journal hebdomadaire, un hebdo du dimanche. On voulait attirer, avec le format en tabloïd, illustré, facile à lire, des gens, ça fait drôle de parler de ça, mais des gens qui lisaient le journal dans le tramway. Et on mettait l'accent sur les faits divers, sur le divertissement. On voulait attirer par là un nouveau lectorat. On préférait la photo au texte, par exemple. Et c'était souvent des reportages à sensation plutôt que des articles de fond qu'on écrivait. Et ce journal-là en particulier se disait indépendant des partis politiques et des trusts. Alors que l'autre journal...
C'est différent de la presse d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, le journal La Patrie avait été fondé, donc je le disais tantôt, par Honoré Beaugrand, qui voulait servir la cause des libéraux à l'époque. Donc, c'était un journal, pour revenir au petit journal, qui avait une vocation différente et qui se disait indépendant.
Qui est-ce qui a fondé le petit journal?
Qui a fondé le petit journal, c'est Roger et Roland Maillet, qui sont les fondateurs. Et voilà.
Tantôt, vous parliez du thé salada et puis ce qu'on utilisait là, pour les sauces, là, le cornstarch.
Le cornstarch, oui.
C'est eux autres qui commanditaient, c'était un ou deux des commanditaires des émissions radiophoniques de l'époque.
Intéressant.
C'est drôle, hein? Oui. Alors, bien, écoutez, M. Goujon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez me dire, là, que je ne vous ai pas demandé?
Bien, vous parliez de... Mon histoire, alors c'est le premier tome qui sera suivi au printemps, en mars précisément, d'un deuxième tome, et à l'automne 2015, d'un troisième volet. Voilà.
Ben, merci beaucoup, beaucoup. Puis on va sûrement acheter ça. Est-ce que le premier est en vente en ce moment?
Le premier est en vente en ce moment, depuis sa parution la fin août. On le trouve dans toutes les librairies. D'ailleurs, c'est un succès de librairie présentement. Voilà. Merci infiniment.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre.
Je vous en prie, Jocelyne. Merci. Au revoir.
Bonne journée.
Vous venez d'entendre le dernier volet de l'entrevue que nous accordait Richard Goujon, qui vient de faire paraître chez les éditeurs réunis le livre « L'épicerie sans souci ». Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org, en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes, amusez-vous en famille, reposez-vous et nous vous revenons en début d'année pour vous présenter une autre émission de Nouveaux regards sur notre histoire sur les ondes de Radio-VM.